Avant-dernier jour sur le territoire pour la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou a visité le camp Est avant de se rendre à Lifou où elle a multiplié les rencontres. Le directeur de l'ADEC se satisfait des avancées concernant le financement de l'enseignement privé. Le gouvernement a adopté hier les arrêtés qui répartissent une enveloppe de 400 millions de francs, dont 300 millions iront à l'enseignement catholique. La dernière session d'assises de l'année s'ouvre lundi prochain. Nous ferons le point sur les affaires jugées dans ce journal. L'investissement participatif fait ses preuves sur le territoire. Nous nous y sommes intéressés ce midi dans les Jeudis de l'économie. La fin de l'année approche à grands pas et avec elle, les festivités de Noël. Sur la place des Cocotiers, les éclairages sont mis en place petit à petit. Ce matin, c'est le sapin qui était installé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la suite de la visite sur le territoire de Naïma Moutchou. Voilà 4 jours que la ministre des Outre-mer est en Nouvelle-Calédonie. Après la province sud en début de semaine et la province nord hier, elle s'est rendue aujourd'hui à Lifou. Sa visite a été écourtée, mais Naïma Moutchou a tout de même eu le temps de rencontrer les acteurs institutionnels et touristiques. Charlotte Coulson.
La visite de la ministre a été rythmée par des chants et danses traditionnelles. Une troupe l'accueillait à chacun de ses déplacements sur l'île. Les grands chefs ont réservé un accueil chaleureux à celles qu'ils ont remerciées d'avoir foulé la terre de leurs ancêtres. Derrière ces démonstrations culturelles, l'objectif était aussi de montrer ce qui fait l'identité kanak. C'est en tout cas ce qu'ont dit les coutumiers lors de la cérémonie d'accueil. Pendant cette coutume de bienvenue, Naïma Moutchou a rappelé quant à elle son attachement aux traditions, aux coutumes, à l'écoute. Personne ne veut changer l'autre. Les mémoires s'additionnent. Elles ne s'effacent pas, a-t-elle dit. Il faut cesser les affrontements et reprendre le tissage, celui de la natte. Après ce geste, le président de la province des îles, Mathias Waneux, et la ministre des Outre-mer ont tous les deux prononcé un discours. Le président de la province a évoqué les difficultés budgétaires de la collectivité, avec un déficit de près de 7 milliards de francs. Il a également parlé du manque de personnel soignant dans les îles, ou bien encore de la double, voire triple insularité qui pèse sur les Loyalsiens, en demandant à ce que le gouvernement prenne en compte les problèmes liés à la continuité territoriale. Mais le président de la province a surtout insisté sur l'importance, selon lui, d'être accompagné par l'État dans la gestion de la collectivité et que l'État, je cite, respecte les engagements de l'accord de Nouméa. La ministre a ensuite pris la parole. La presse n'a pu assister qu'au début de son discours. « Je suis venue car les îles ont besoin d'être entendues », a-t-elle dit.
« Je ne suis pas venue pour une simple étape dans un déplacement, je vous le dis. Je suis venue parce que les îles ont besoin d'être entendues. Elles ont besoin d'être regardées et d'être considérées à la hauteur de ce qu'elles apportent à la Nouvelle-Calédonie. Parce que dans un moment aussi sensible pour le pays, il est essentiel d'être ici parmi vous. Monsieur le Président, je voudrais saluer votre courage, votre constance et votre responsabilité dans un contexte financier que vous avez rappelé et que chacun connaît. Et je veux vous dire très clairement, l'État sera présent. Il sera présent à vos côtés, avec sérieux, avec méthode, bien sûr, et dans la durée. Et si je suis là, c'est d'abord pour avancer sur tous les sujets qui sont sur la table, pour parler avec tout le monde. Tout le monde. Et je l'ai fait jusqu'à présent.
Naïma Moutchou s'est ensuite entretenue avec le président de la province des îles. Mathias Waneux a pu développer avec elle les problématiques évoquées dans son discours et il est ressorti plutôt satisfait des échanges avec la ministre.
J'ai posé des questions, donc j'ai eu des retours, je suis très satisfait. Mais par exemple, comme le quorum, le CAR, le contrat à redressement financier de la province, puisqu'il y a une aide qui va être octroyée à 300 millions, donc 300 millions par an. Donc on attend juste que se termine la manière de grouper le dossier et puis qu'on puisse la signer. Mais en même temps, on attend aussi la garantie de l'emprunt qu'on doit faire pour le Betticcio 3. Donc ça, on a demandé à l'État s'il peut porter la garantie bancaire. Nous, on pourra travailler sur la défiscalisation métropolitaine et locale. Donc là, on vient d'avoir une confirmation que la défiscalisation métropolitaine n'aura pas de coup de rabot de 11% qui a été annoncé, de 11 points vis-à-vis de 20%. Donc ça devient rassurant pour nous.
Une réunion à laquelle ont également assisté les 3 maires des îles Loyauté, Nekone Peoun pour Lifou, Marilyn Sinewami pour Marais et Maurice Tilewa pour Ouvéa. L'occasion pour eux d'aborder les problématiques spécifiques liées aux collectivités territoriales, surtout après la crise insurrectionnelle de l'an dernier. Nekone Peoun.
Elle a été très attentive à nos interrogations et surtout à nos inquiétudes en tant que exécutifs des collectivités locales. qu'on a répété toujours les mêmes difficultés que nous avons. On parle beaucoup de reconstruction et de refondation dans le Grand Sud parce que les démolitions de biens immobiliers, c'est dans le Sud. Mais nous, nous avons subi un petit peu les dommages collatéraux, on a subi parce qu'une part de nos populations sont revenues chez nous. C'est pour ça qu'il y a eu cette aide pour la restauration scolaire, le transport scolaire, parce que ce sont des choses qui nous concernent la vie de tous les jours et c'est les communes qui assurent ce genre de dépenses.
Les échanges avec le président de la province des îles et les maires auront duré un peu plus d'une heure.
La matinée aura donc été plus longue que prévu pour Naïma Moutchou qui a dû écourter son programme de l'après-midi. Elle a, pendant la pause du déjeuner, rencontré l'association de femmes et puis un secteur d'activité qui fait aussi vivre les îles Loyauté et dont il a été question lors des échanges institutionnels, c'est bien sûr le tourisme.
La fréquentation a chuté après les émeutes insurrectionnelles de l'an dernier, alors que le tourisme fait vivre une partie des habitants de l'île. La relance du secteur est donc dans les préoccupations de tous. À Lifou, l'agence Wetch Tour, gérée par Josiane Kaemo, tente de redémarrer. Elle a profité du passage de la ministre à Léasso Village pour présenter les projets touristiques de l'agence, la ferme corallienne et le centre culturel.
Elle passe, elle vient nous rendre visite, donc elle a quand même eu un temps pour nous écouter. Ça ne nous empêche pas de donner en fait le projet que l'on veut donner. On n'est pas arrivé à notre stade d'avant Covid, mais au moins ça donne un souffle en fait à la population. On continue, il y a aussi cette taxe croisière qui arrive, mais il faut qu'elle arrive pour pouvoir aider en fait, même aider les compagnies à vouloir venir plus que de les empêcher de venir. On crée quand même de l'emploi et puis on valorise, on travaille pour le pays, donc c'est important.
Allez, à ce village, Naïma Moutchou a brièvement pris la parole. Lifou est un laboratoire du futur, de ce qu'on peut faire demain, ici et dans d'autres territoires, pour affronter la question du changement climatique, a-t-elle dit. La ministre n'aura pas eu le temps de se rendre à la maison de la vanille ni à la case du miel, mais aura tout de même échangé quelques mots avec ses dirigeants sur Lifou.
Et avant de se rendre à Lifou, Naïma Moutchou était en visite au camp Est tôt ce matin. La ministre des Outre-mer s'est notamment rendue à la maison d'arrêt, un quartier de détention qui a été rénovée à la suite de la mutinerie de mai 2024. La pépinière est un des chantiers d'insertion agricole. Une visite d'une heure qui s'est achevée avec la rencontre de l'intersyndicale du centre pénitentiaire. Après avoir écouté leurs revendications, Naïma Moutchou a tenu à les rassurer.
D'abord, je vais vous rassurer parce que pour moi, ça n'est pas abstrait. Donc, je suis ministre depuis 4 semaines, mais ça fait 8 ans que je suis parlementaire et que je travaille sur les sujets calédoniens. Et je viens du monde de la justice. Moi, je suis avocate de métier. Je sais très bien comment ça se passe. Et quand je suis venue déjà il y a quelques années ici, j'ai bien vu les difficultés. Il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens, mais il faut continuer. Et il faut certainement même accélérer. À l'Assemblée nationale, moi, j'ai parlé de vous. Je parle souvent du personnel pénitentiaire et avec tous les ministres de la justice qui se sont succédés, on a essayé aussi de faire avancer des choses. Là, il y a des dossiers très concrets. C'est pour ça que je suis venue sur le terrain. J'ai pris le temps dans une semaine un peu chargée, mais pour moi c'est un sujet important. Donc il y a des revendications, je vais les regarder. Il faut voir ce qu'on peut arriver à faire très vite. La construction d'un centre pénitentiaire massif, ça prend beaucoup de temps, des années. Qu'est-ce qu'on peut faire avant pour soulager un peu la pression ? Et après, je sais qu'il y a d'autres choses qui sont sur la table. On va les regarder au cas par cas, voir combien ça coûte, parce qu'il faut de l'engagement financier aussi de l'État, et faire les choses en bonne intelligence et continuer à dialoguer. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, c'est dans cet état d'esprit que je suis venue. C'est aussi pour vous dire tout mon soutien. Je sais ce qui s'est passé il y a un an et demi de ça aussi, et donc je continuerai à parler de vous à Paris, mais surtout à avancer dans des actions concrètes.
Un échange bref entre la ministre et l'intersyndicale composée de FO, l'USTKE et l'USWINC, mais suffisant pour donner espoir de changement, souligne Victor Wayaridri, porte-parole de Force Ouvrière.
On est satisfait, on va dire, on est satisfait de ce qu'elle dit. Après, comme on dit, il faut espérer, on attend encore parce qu'elle va entamer le dialogue avec le ministre de la Justice. J'espère nous avoir écoutés, bien sûr, par rapport à nos revendications, aux risques professionnels, comment améliorer les conditions du travail d'un surveillant vis-à-vis des détenus. On a eu dernièrement la visite du DAP, le directeur de l'administration pénitentiaire, et du directeur interrégional qui sont venus en mois de septembre. Et là, maintenant, c'est la ministre des Outre-mer, ça veut dire que c'est quand même fort, notre revendication. Après, on va entendre, c'est les paroles. Il faut avoir des actes derrière, peut-être à long terme, à court terme, on espère.
C'est la deuxième fois que l'intersyndicale se réunit cette année pour les mêmes raisons. Elle n'exclut pas de se retrouver de nouveau si les conditions ne s'améliorent pas et pour alerter notamment sur la hausse des agressions des surveillants ces derniers mois. Demain, ce sera le dernier jour de la visite de Naïma Moutchou en Nouvelle-Calédonie. La ministre débutera sa journée dans les locaux de Radio Rythme Bleu. Elle sera en effet notre invitée du matin à 7h30 et sera interrogée par Elisabeth Noir. La ministre se rendra ensuite au lycée Petro Atiti Haïti avant de rencontrer les maires de Nouvelle-Calédonie à la résidence du Haut-Commissariat. Enfin, elle échangera avec les associations d'habitants du quartier de Tindu. Aucun rendez-vous n'est inscrit sur son agenda de demain après-midi. Elle pourrait avoir de nouveaux rendez-vous politiques avant de quitter le territoire dans la nuit pour rejoindre Paris. Notez enfin ce deuxième rendez-vous sur notre antenne. Demain midi, c'est Judicaël Séléphène, l'un des porte-parole du Palika, qui sera l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. L'occasion de revenir sur le 50e congrès de son parti qui s'est réuni le week-end dernier à Bouraille sur le site de Téné. Judicaël Séléphène sera également interrogé sur l'avenir institutionnel, sur le calendrier de l'accord de Bougival et sur la visite de la ministre des Outre-mer. Une interview à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Dans le reste de l'actualité sur le territoire, la reprise du service des cantines dans les établissements scolaires de l'ADEC. Elles étaient à l'arrêt depuis le 3 novembre dernier en raison d'un bras de fer entre la direction diocésaine de l'enseignement catholique et les institutions au sujet du financement de l'enseignement privé. Jean-François Baudin.
Oui, les choses ont avancé ces derniers jours et le gouvernement a notamment adopté hier les arrêtés qui permettent de répartir l'enveloppe de 400 millions de francs destinée aux enseignements privés. Contribution adoptée il y a quelques jours par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le directeur de l'enseignement diocésain, Manuel Van Arskocht, est satisfait de la reprise des cantines, mais aussi de l'annonce de l'ouverture de discussions pour modifier la fameuse délibération 360 qui encadre le financement de l'enseignement privé.
C'est effectivement un soulagement pour tout le monde, à commencer par les élèves, les parents, nos personnels et nous-mêmes à la direction. Nous avons signé la fameuse convention pour la contribution que le gouvernement prend à sa charge en lieu et place des communes qui étaient donc prévues dans la 360. Donc je remercie encore une fois le gouvernement pour son action rapide et efficace, dont Mme Chamorreau, qui effectivement, à la fin de la deuxième journée de blocage des cantines, m'a adressé une lettre en convenant des deux points que je souhaitais, c'est-à-dire revoir la délibération 360, ainsi que les taux afférents à cette délibération. Je regrette encore une fois, et je prie les parents de m'excuser d'avoir fait ce blocage des cantines, mais ça faisait de nombreux mois que j'attendais. Il fallait absolument qu'il y ait quelque chose. Là, nous avons obtenu un début de discussion. C'est marqué, c'est signé par la membre du gouvernement. Les choses prennent une bonne tournure.
Et on soulignera que la répartition de la contribution de 400 millions adoptée par le Congrès se fait de la manière suivante. 300 millions pour l'ADEC, 42 millions pour la FELP et 58 millions pour les structures de l'ex-ASE.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Est-ce une bonne idée, selon vous, d'implanter une antenne du RSMA, le Régiment de Service Militaire Adapté, dans le Grand Nouméa? Si vous trouvez que c'est une bonne idée, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, 90% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS ne trouvent pas normal que Nicolas Sarkozy, qui a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et l'interdiction de rencontrer le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Ils sont 10% à dire, à l'inverse, qu'ils trouvent cela normal. Cette information, en bref, la préparation des municipales avec d'inévitables ajustements. Au Mont d'Or, Karl Engela annonce sa démission du groupe majoritaire Vivre au Mont d'Or, sur la liste duquel il avait été élu en 2020. À 4 mois des élections municipales, il annonce rejoindre le groupe de Nina Julie de Génération Mont d'Or. 17h59, première pause dans ce journal avant de voir l'actualité judiciaire et la dernière session d'assises de l'année qui débute lundi prochain.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main. Du lundi au vendredi, de 11h à 13h, c'est l'Infomag avec le Village Automobile au PK4 à Nouméa. Le Village Automobile, c'est un lieu unique qui regroupe un parking d'occasion, un magasin de pièces de rechange d'origine, un atelier de réparation normes constructeurs et surtout 11 grandes marques de véhicules neufs avec des offres exceptionnelles.
Info Soir, Léana Colombo.
Dans l'actualité judiciaire, la quatrième session d'assises de l'année s'ouvre lundi. Elle va durer jusqu'au 4 décembre. La moitié des affaires concernent des viols. Les trois autres sont des affaires de sang avec des coups mortels, un meurtre et un assassinat. Pierre-Yves Michaud, l'avocat général.
Six dossiers, donc cette quatrième session donnera à juger six dossiers, trois affaires de mœurs, un dossier de viol, un dossier de viol par conjoint et un dossier de viol incestueux sur mineur de 15 ans, et trois dossiers d'atteinte aux personnes avec un dossier d'assassinat à point bout, un dossier de meurtre en provenance de la cour d'assises de Wallis et Futuna, donc c'est un dossier qui vient en appel. Et un dossier de coups mortels, des faits commis à Kwawa, donc sur la Grande Terre.
La plus grosse affaire sera celle jugée en appel sur trois jours du 24 au 26 novembre. Il s'agit d'un meurtre sur Wallis et Futuna à coups de marteau. Le chef du village est jugé pour meurtre et son fils pour avoir maquillé la scène de crime et déplacé le cadavre. En première instance à Wallis, ils ont été acquittés. La police communique sur le démantèlement d'un trafic de drogue à Rivière-Salée. Le coup de filet a eu lieu le 6 novembre dernier dans un accamal. La police, la gendarmerie et les douanes ont mis la main sur plus d'un kilo de cannabis, 900 grammes de cocaïne et 200 000 francs en liquide. Le gérant et plusieurs individus ont été interpellés. Plusieurs infractions liées à la dissimulation d'activité et à la non-déclaration de salariés ont été constatées. François Omeril achève une visite en Nouvelle-Calédonie. Le président national de la CFE-CGC, quatrième organisation syndicale en métropole, était ce matin notre invité du matin à 7h30. Il connaît et a pu les mesurer lors de son séjour les difficultés économiques actuelles. Il a aussi entendu les craintes du monde politique et socio-économique sur l'accompagnement financier de l'État et il a un avis sur le sujet.
Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que l'État assume ses responsabilités. Mais par ailleurs, il faut aussi que les acteurs sociaux, que les acteurs économiques dans l'île assument aussi leurs responsabilités. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Mais pour prendre l'exemple du prêt garanti par l'État, qui est quand même aujourd'hui à un taux relativement élevé, moi, je vois pas comment on peut aider la Nouvelle-Calédonie en exigeant qu'il rembourse ce prêt-là. Il faut à l'évidence trouver une structure financière adaptée pour que ce prêt soit transformé en subvention ou en quoi que ce soit qui soit utile à l'économie, mais il faut à l'évidence soutenir la Nouvelle-Calédonie dans la phase qu'elle connaît actuellement, qui est une phase un petit peu critique où il faut restaurer des espaces de confiance.
Et François Méril estime, si les réticences financières de l'État sont motivées par les difficultés financières que rencontre la France, que c'est un faux problème.
J'ai 64 ans, je suis un vieux militant, ça fait 30 ans que je milite, ça fait des années et des années que j'entends nos gouvernants dire « il n'y a plus de sous dans les caisses ». Et les mêmes qui nous disent ça, ils s'acharnent à vider les caisses en créant de la dette sans la transformer en actifs. Je pense que le problème, il est exclusivement politique. C'est aux politiques de prendre les décisions adaptées à la situation. Et il faut qu'ils arrêtent de nous dire qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, il faut que les politiques prennent des décisions adaptées, qu'ils aient une vision, une stratégie, qu'ils nous en parlent et après ils vont motiver les corps intermédiaires et ça va marcher. C'est pas plus compliqué que ça. Moi j'en ai marre d'être gouverné par des gens qui ne font que de la comptabilité. Si ça n'est que ça pour eux, faire de la politique, moi je leur conseille de faire autre chose.
François Méril, président national de la CFE-CGC, invité du matin. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur rrb.nc. Après les émeutes de 2024, le secteur de la construction et de la commande publique fait face à des défis inédits. Pour initier la relance et la reconstruction, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie organise mercredi prochain le séminaire de la maîtrise d'ouvrage, Charlotte Coulson.
Un séminaire qui se tiendra toute la journée au Centre culturel Chibaou, avec quatre conférences le matin, les modifications apportées sur la délibération 424, la qualité des constructions, le pilotage de la reconstruction et enfin la modernisation des outils de programmation. Et puis l'après-midi, place aux ateliers. Le rendez-vous vise à rassembler les acteurs publics et privés pour trouver des solutions et permettre une reconstruction rapide tout en transformant en profondeur les méthodes de travail. Les précisions de Pételo Sao, membre du gouvernement chargé de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'innovation technologique.
Le principal objectif, c'est déjà de revoir les partenaires publics et les partenaires privés, de faire le bilan des modifications qui ont été apportées en avril dernier sur la commande publique. Et c'est vraiment un enjeu pour nous de pouvoir faire de l'interactivité une réalité. Les participants auront la possibilité, à travers des QR codes, de pouvoir poser leurs questions en direct pendant le séminaire. Donc on attend beaucoup de la part des participants, notamment sur leurs ressentis, leurs ambitions, quelles sont leurs envies aussi et comment on peut les concrétiser ensemble. Donc c'est vraiment un aspect nouveau de la part du gouvernement d'actionner ces volets interactifs avec l'ensemble des participants. J'espère en retirer une feuille de route stratégique sur l'investissement public pour les 3 prochaines années afin de faire de la commande publique un véritable levier de la relance économique. Et ça se fera en collaboration avec l'ensemble des partenaires, les collectivités publiques, mais aussi les partenaires privés.
Le séminaire de la maîtrise d'ouvrage organisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se tiendra mercredi prochain au Centre culturel Chibaou.
RRB, il est 18h05.
L'investissement participatif, c'est du gagnant-gagnant. C'est la conviction des invités des Jeudis de l'économie ce midi, alors que plusieurs porteurs de projets sollicitent des levées de fonds pour développer leur activité. Jean-François Baudin.
Le principe de l'investissement participatif, même s'il est relativement récent, a déjà fait ses preuves. Il s'agit de solliciter des investisseurs pour accompagner des entreprises. Nicolas Laurent, cofondateur d'Invest in Pacific, a rappelé le principe de ces levées de fonds.
L'investissement participatif, en fait, c'est le fait d'identifier des projets entrepreneuriaux locaux, concrets, de l'économie réelle, et par un acteur agréé, structuré comme Invest in Pacific, qui va transformer ce projet entrepreneurial en un produit d'investissement agréé par l'autorité des marchés financiers à destination des épargnants calédoniens. Voilà, donc c'est vraiment ça notre métier, nous, c'est de rencontrer des gens, d'identifier leur projet, de le structurer et ensuite de pouvoir le transformer en un produit d'investissement.
Pierre Dorchy a sollicité à 2 reprises des levées de fonds. Sa société a mis au point une solution cloud pour la gestion administrative du barreau de Nouméa. Sans investissement participatif, il n'aurait pas pu développer son activité et notamment la vendre hors du territoire.
Lorsqu'on a souhaité passer le pas d'aller commercialiser en dehors de Nouvelle-Calédonie, il fallait qu'on poursuive nos développements informatiques. Une application, quand on la développe réellement, ça coûte très très cher. Et puis, commercialiser depuis la Calédonie vers l'Outre-mer, vers l'Hexagone, ça représente aussi un investissement non négligeable. On a été accompagné par des établissements bancaires, mais dans une moindre mesure, on va dire, sur le lancement. Par la suite, pour faire une levée de fonds plus conséquente, comme celle qu'on a pu faire à près de 40 millions de francs, les banques ne sont pas les bons interlocuteurs. Et puis aller chercher des investisseurs privés ou des institutionnels hors du territoire, c'est très compliqué. Et c'est là qu'effectivement, on a commencé à échanger avec Invest in Pacific. Et ça nous a semblé la meilleure méthode pour pouvoir bénéficier de cet investissement. Et puis le faire avec des Calédoniens, puisque nous, tout ce qu'on perçoit en investissement, on le réinjecte directement dans l'économie calédonienne. Toutes nos dépenses de production sont faites en Nouvelle-Calédonie. Donc ça nous semble être vertueux en termes d'organisation entre les investisseurs, nous, et puis les clients qui sont hors du territoire.
Ces levées de fonds sont donc essentielles pour permettre aux sociétés qui ont recours de se développer, mais c'est une démarche gagnant-gagnant, a poursuivi Nicolas Laurent, car l'investisseur bénéficie d'avantages fiscaux à la hauteur de la somme qu'il engage, sachant que la mise minimum est de 100 000 francs.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie veut stimuler l'investissement dans les entreprises locales, donc a mis en place depuis 2019 la loi de pays 136-9 du Code général des impôts qui incite les Calédoniens à investir dans les entreprises calédoniennes au travers d'une plateforme comme Invest in Pacific. Et de manière très concrète, un Calédonien qui aurait 500 000 francs d'impôts à payer, s'il met 1 million de francs pacifiques, par exemple, dans la société agrilogique, il n'aura plus d'impôts à payer. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie accepte de renoncer à une recette fiscale à un instant T. Mais l'objectif, c'est de se dire, Agrilogique, grâce à ça, va recruter localement. Donc, avec ça, va payer des cotisations CAFAD, va payer de la TGC, va payer de l'impôt sur les sociétés, ainsi de suite. Donc, ce que le gouvernement abandonne tout de suite au profit des investisseurs, donc ces 500 000 francs, par exemple, qu'ils auraient abandonné de recettes fiscales sur l'impôt sur le revenu, il va le retrouver grâce à la performance que va générer la société. C'est de l'impôt différencié pour la collectivité.
Une émission à laquelle participaient également Amandine Durand d'IFP Patrimoine et Joël Despujol de la société Agrilogique. L'ensemble des projets qui sollicitent des levées de fonds est disponible sur la plateforme Invest in Pacific.
L'investissement participatif des Jeudis de l'économie à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. 18h passées de 9 minutes, seconde pause, et nous irons faire un tour du côté de l'actualité dans la région. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite, la fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et l'actualité dans la région, les alliances sécuritaires continuent de se dessiner. L'Australie et l'Indonésie ont annoncé la signature imminente d'un nouveau traité de sécurité. Il a été préparé dans le plus grand des secrets. Et hier, à Sydney, le Premier ministre australien Anthony Albanese a dévoilé les grandes lignes. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a déclaré en conférence de presse que le nouveau traité est principalement basé sur celui qui avait été signé par l'Australie et l'Indonésie en décembre 1995. Le nouveau pacte engage les dirigeants politiques et les ministres des deux pays à se consulter sur les questions de sécurité de façon à examiner ensemble quelles mesures peuvent être prises individuellement ou collectivement et identifier et entreprendre des activités de sécurité mutuellement bénéfiques. Ce traité, a précisé Anthony Albanese, représente un élargissement majeur en matière de défense et de sécurité. C'est un tournant décisif dans les relations entre nos deux pays, a-t-il insisté. C'est de la politique de bon voisinage, s'est contenté de préciser Prabowo Subianto. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Retour sur le territoire avec des réjouissances. Le compte à rebours est lancé. Dans un peu plus d'un mois, Noël sera là. Et à Nouméa, l'esprit des fêtes s'installe déjà. Depuis ce matin, les agents municipaux, épaulés par plusieurs sous-traitants, dressent le grand sapin et installent les illuminations sur la place des Cocotiers. Malgré un budget restreint, la mission reste inchangée. Faire briller les yeux des enfants. Jean-Claude est régisseur événementiel pour la ville de Nouméa.
On met le sapin en place pour la déco. Et on va essayer aussi de mettre les grosses ampoules que vous voyez sur les arbres. Voilà, ça va être ça aujourd'hui. Il y a trois équipes de trois qui sont sur les arbres, ça c'est des prestataires. Ensuite, on a une équipe là pour le sapin et voir tout le reste. Et ben, il y aura quelques petits changements, quelques nouveautés. Et puis le reste, et ben, c'est comme d'habitude. On sait tous que le budget, il n'est pas là, mais voilà, on essaie de faire avec ce qu'on a.
L'objectif, malgré le budget limité, c'est de faire sourire les Calédoniens.
Voilà, surtout. Et faire en sorte à ce que les yeux de nos enfants brillent. C'est ça, surtout. Pareil pour les Calédoniens, les grands aussi, pareil.
La programmation des festivités de Noël à Nouméa n'a pas encore été dévoilée, mais à l'image des décorations sur la place des Cocotiers, l'objectif sera là aussi de donner le sourire aux enfants, petits comme grands. Et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo pour les petits comme pour les grands, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, des plaques de nuages bas remonteront sur la pointe sud et l'île des Pins, donnant un ciel souvent nuageux. De l'extrême nord-est à Ouvéa, quelques averses isolées circuleront encore dans l'Alizé. Ailleurs, les éclaircies garderont l'avantage et le temps restera calme. L'Alizé de sud-est soufflera entre 5 et 10 nœuds sur le sud et jusqu'à 15 nœuds sur la pointe nord et Ouvéa. Les températures minimales seront fraîches, bah oui, on l'a déjà senti cette nuit, inférieures aux valeurs de saison entre 10 18 et 22 degrés et localement 17 degrés dans l'intérieur des terres et sur les îles. Demain matin, le ciel restera chargé sur l'extrême nord avec une ondée possible vers Belep. Quelques nuages s'attarderont également sur la pointe sud et l'île des Pins, tandis que le reste du territoire profitera d'un franc soleil. L'alizée de sud-est s'établira entre 10 et 15 nœuds et pourra atteindre 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et le nord-ouest en fin de matinée. Il restera plus modéré sur l'extrême sud autour de 10 nœuds. Côté marée pour nos amis les pêcheurs, la mer sera basse ce soir vers 21h20 avant de remonter dans la nuit pour un plein niveau attendu vers 3h, puis de redescendre vendredi matin autour de 9h03.